31 jours en poésie, périple entre le vert et le bleu. La nature vue par les poètes francophones.
L'Institut français de Grèce présente Dans les secrets de la lecture à voix haute avec Éric Sénat et Philippe Maugental.
Éric Sénat, merci d'être à nouveau avec nous en Grèce. C'est la deuxième fois que vous venez nous rejoindre. Ça ne sera pas la dernière puisque vos retours à échéance régulière sont prévus. Mais on ne peut pas dire que vous soyez un familier de la Grèce parce que à chaque fois que vous êtes venu, nous avons en quelque sorte accaparé. Je veux dire, vous êtes occupé essentiellement de la formation des professeurs, vous êtes acteur. Le questionnement qui est le vôtre, c'est comment, au fond, intégrer les pratiques théâtrales dans l'enseignement des langues étrangères, pour nous, ce qui nous, en tout cas, nous intéresse. Et puis, vous êtes un praticien de la lecture à voix haute, et entre autres, de la lecture poétique à voix haute. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de ce travail avec les professeurs? Est-ce qu'il y a, vous êtes vous-même un grand voyageur, je sais que vous travaillez assez souvent en République tchèque par exemple, est-ce qu'il y a une spécificité grecque au fond, est-ce que cette question-là de la lecture, de la poésie travaille davantage, vous semble-t-il, la société grecque que celle de nos compatriotes, que la société tchèque?
Disons que à partir du moment où on s'adresse à des professeurs de français, ce sont quand même des gens qui ont un rapport à la langue, et notamment la langue française, qui est un rapport singulier, personnel, étroit. Donc, en fait, un professeur de français en République tchèque ou un professeur de français en Grèce, moi, je vois pas tellement de différence. Ce sont vraiment des gens qui aiment véritablement notre langue. Après, il y a des particularités culturelles, ça c'est obligatoire. Le lien à la mer, par exemple, ici, il est vraiment très fort quand on parle avec les professeurs. Quand je suis en République tchèque, qui est un pays où la mer n'existe pas, il n'est pas entouré de mer, qui est entouré uniquement de terre, les préoccupations sont un peu différentes, les sujets peuvent être différents. Mais en tout cas, le rapport à la langue, il est... Moi, je vois pas une très grande différence.
Ouais, mais c'est bien que vous parliez du rapport à la nature, puisque quand dans ces 31 jours de poésie entre le vert et le bleu, bon, on est au fond entre la mer et le champ de betteraves. Hein. Donc ouais. que vous en fassiez appel à la nature, à des éléments de la nature, et comme étant un élément de la sensibilité propre en l'occurrence du corps professoral, bon, c'est quand même assez intéressant.
Ouais, c'est sûr. Moi, par exemple, je viens d'Orléans, et donc à Orléans, on est plus proche du champ de betteraves, hein, c'est la Beauce, hein, donc il y a des champs de betteraves hein, tout près que de la mer. Après, effectivement, moi j'ai passé mon enfance en Bretagne, par exemple, du côté maternel, donc ma famille vient de Bretagne, donc j'ai un lien fort avec l'océan, ça c'est sûr.
Oui, mais il y a une poésie des champs de betteraves, on l'évoque assez rarement.
Charles Péguy, par exemple, c'est pas les betteraves, ce sont les blés, la poésie, elle est souvent liée aussi où les gens ont vécu, hein, forcément.
Et alors, vous leur apprenez quoi, ces enseignants, exactement? Qu'est-ce qui... Bon, j'ai vu hier, à la suite de la lecture que vous avez faite de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, que vous recueillez un vrai succès d'estime avec les professeurs avec lesquels vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous leur apportez? C'est difficile.
Ah ouais, c'est difficile. Bon, après, quand même, comme toute discipline, il y a un peu de technique à apporter. Mm-hmm. Donc ça, à force moi-même d'expérimenter la lecture à voix haute dans différents endroits avec différents textes, donc j'ai acquis une certaine technique. Mmh. Et donc le but, c'est de la transmettre, cette technique. Donc c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec le pupitre, hein, c'est-à-dire ce qui me paraît important, c'est que le lecteur soit libre de ses mouvements derrière un pupitre. C'est-à-dire que ses bras, ses mains sont disponibles. Le corps est véritablement vivant, il n'est pas encombré par le fait de tenir un papier dans la main. Donc ça, je travaille beaucoup sur le rapport corporel. Et puis après, je travaille aussi, puisque le texte est sur le pupitre, sur la façon dont le lecteur est à la fois capable de lire le texte, mais aussi de s'adresser au public. Donc le rapport au regard, pour moi, il est vraiment très important. Comment, déjà, avant de commencer, on capte le public par le regard.
D'accord, lire, c'est une technique corporelle aussi.
Oui, bien sûr. Ouais, on voit le corps du lecteur. Mm-hmm. Le lecteur n'est pas neutre corporellement. Ça, c'est sûr, il est vivant et son corps exprime ce qu'il ressent par rapport à la poésie.
Oui, c'est très net chez vous, dans la lecture que vous avez faite hier de Blaise Cendrars, votre corporéité, c'est comme ça qu'on dit, est très évidente. Vous incarnez le texte et vous le mimez en quelque sorte. Il en acquiert une espèce de volume, si j'ose dire.
Il y a le mot mime.
Peut-être pas le mot que j'aurais dû utiliser.
Le mot mime, ça veut dire qu'on illustre.
C'est juste. C'est pas le mot que j'aurais dû utiliser, mais c'est intéressant que vous me repreniez sur ce mot-là, parce que ce n'est pas celui que je voulais utiliser. Bon, je veux dire que vous incarnez le texte, que votre corps, je veux dire, est pénétré d'une forme de tension, qui manifeste corporellement. Ouais.
C'est ma façon à moi de dire un texte. Après, il y a des lecteurs qui sont plus neutre, c'est-à-dire qui disent en fait comme on est en lecture, donc ce qu'on met en avant c'est pas tellement l'interprétation, ce sont les mots.
Qui était théâtralise moins donc.
Ouais, qui théâtralise moins. Mais moi j'ai beaucoup de mal à le faire, ne pas théâtraliser, ne pas vraiment m'impliquer complètement par le poème.
Vous êtes un homme de spectacle, vous êtes un comédien, donc vous voulez dire que ça vous est plus naturel de théâtraliser le texte.
Ouais, sûrement. Mais après, il y a aussi des acteurs qui sont capables de ne pas le théâtraliser ou qui ne veulent pas le théâtraliser, qui veulent avoir une lecture plus neutre, je dirais, moins impliquée, pour que les mots, selon eux, parviennent mieux à l'auditoire et que c'est vraiment l'auditoire qui se fait son propre schéma par rapport au texte.
D'accord. Éric, les professeurs qui ont travaillé avec vous et qui vous écoutent aujourd'hui auraient peut-être envie d'en connaître un peu plus sur vous. Comment, au fond, vous en êtes arrivé là?
À la poésie?
À la poésie, mais au fond, comment vous êtes devenu acteur et comment vous vous êtes fait, au fond, une forme de spécialité dans la lecture, dans l'oralisation des textes, dans la lecture à voix haute? Comment c'est venu tout ça? Vous pouvez dire quelques mots? Parce que bon, je pense que vous avez travaillé pendant des semaines consécutives avec un certain nombre de gens, bon, qui peut-être aimeraient mieux vous connaître et qui s'interrogent aussi sur votre parcours. C'est pour nous intéressant.
Ouais, ouais. Mais quand on parle des professeurs, par exemple, je pense que pour moi, les professeurs ont été très importants dans mon parcours. Moi, j'étais un élève assez timide. En fait, j'avais sauté une classe. Donc c'était difficile pour moi parce que bon, sauter une classe, ça veut dire un problème de maturité, de confiance en soi. Enfin, c'était pas évident pour moi l'école primaire. Et puis après, donc arrivé au collège, j'ai eu la chance de rencontrer deux professeurs de français qui m'ont donné le goût du théâtre. Et je me suis rendu compte que par le théâtre, je pouvais vraiment trouver une source d'expression qui faisait que toute cette timidité était absolument banni, je ne me reconnaissais plus moi-même, on ne me reconnaissait plus, mais je trouvais mon terrain d'expression. Et après, donc très vite, j'ai intégré un conservatoire à Orléans, dans ma ville, donc à 14 ans. C'était même très jeune, puisque j'ai pas pu être admis tout de suite. J'étais en initiation à l'art dramatique, donc pendant un an, j'étais trop jeune, en fait. Et après, donc j'ai fait 4 ans de conservatoire. Mais donc, c'est pour ça que le rapport au professeur, pour moi, il est vraiment très important. Je sais qu'un professeur, notamment un professeur de français, peut modifier une vie, un destin. Ça, j'en suis sûr.
Oui, sûrement.
Et puis, après, j'avais un grand-père qui était féru de poésie et de philosophie et qui, très tôt, m'a donné le goût des mots. Ça, c'est sûr. Je pense souvent à lui, vraiment souvent à lui, parce qu'il m'a... Je sais pas, il m'a bien, lu oui, des textes très très jeunes.
Vous faites allusion à votre famille, mais c'est bien aussi qu'on fasse allusion à des professeurs qu'on a rencontrés à un certain moment de notre parcours scolaire, qui était aussi un moment de notre parcours intellectuel et qui finalement ont décidé de sans même le vouloir, mais par leur personne, de par les propos qu'ils pouvaient tenir, d'un avenir et d'un destin. Moi, je médite beaucoup pour que les enseignants... vous avez parlé de confiance en soi, réintègrent cette confiance en eux, qu'ils ont un peu perdu. On vit dans une société dans laquelle la figure du professeur n'est plus aussi éminente qu'elle était il y a 20 ans, et les enseignants ont perdu cette assurance, c'est-à-dire d'être quelqu'un dans la société et de pouvoir décider de l'avenir, non pas du destin, mais simplement de l'avenir, ou d'orienter l'avenir des enfants, de conseiller les parents, et un statut social, au fond, qui leur est naturel. D'eux émane une autorité naturelle, puisque c'est celle du savoir. Alors, bon, peut-être que le travail que vous avez fait avec eux leur redonne, d'une certaine manière, cette confiance. Vous avez employé ce mot tout à l'heure.
Ah oui, mais je pense que c'est un mot qui est vraiment très, très important. Ouais. La confiance...
Confiance en soi.
Ouais, confiance en soi, confiance en l'autre.
Et confiance en soi qui est une forme d'émanation et qui est une espèce d'autorité naturelle.
Ouais.
Et que tout à coup on vous reconnaît et qui change le rapport avec l'autre.
Oui, ouais. Oui, c'est ça, ouais, ouais, exactement. Ouais. Et, le fait, par exemple, de pouvoir lire en public, de pouvoir s'exprimer, même au travers des mots d'un autre, d'un poète, ça veut dire qu'on est regardé, ça veut dire qu'on est écouté. Être capable d'être devant les autres, c'est pas un acte forcément très naturel, hein. Et donc c'est vrai que ces formations, à mon avis, elles sont vraiment vraiment intéressantes. Et je l'ai vu par rapport au professeur assez rapidement, comment celui qui lit au début, il faut découvrir le texte, il faut éventuellement se l'accaparer, se le personnaliser, et donc ça prend un petit peu de temps, mais quand même avec quelques éléments de technique, eh bien on se rend compte que la personne lit très bien, rapidement, et qu'elle est vraiment capable de porter les mots du poète.
L'élément de technique, ça voulait dire qu'il y a des trucs de lecture.
Que je peux donner effectivement quand je suis en formation. C'est effectivement toujours être vigilant sur sa corporalité, sur le regard qu'on peut avoir au public, ne pas lire trop vite, ne pas se débarrasser des mots, au contraire goûter les mots, prendre son temps, avoir une énergie sincère, profonde, laisser sa sensibilité affleurer par rapport aux mots. Oui, ce sont des là, ce ne sont pas que des mots, parce que quand on utilise ces techniques, on se rend compte que assez rapidement, si on les met en pratique, il y a un résultat qui arrive.
Oui, on parlait de la faute tout à l'heure. Un enseignant a... Enfin bon, les enseignants que vous avez eus devant vous ont peut-être peur de faire des fautes en lisant. C'est ça, c'est-à-dire c'est quoi? On rate un mot, on transforme un mot.
Ouais, ça peut arriver. Bon, oui. Après, bon, quand on enregistre un texte à la radio, comme on a pu le faire. Bon, on recommence. On n'est pas en direct, donc on coupe. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Après, quand on est en lecture à voix haute, si on se trompe, on se trompe. Ouais. Voilà. Et le but, c'est de continuer. On n'a pas à s'excuser devant le public de dire excusez-moi, je me suis trompé, je vais recommencer.
Oui, on continue.
On continue. On trace sa route et ce qui est passé est passé. Ça, c'est vraiment important. Après, c'est vrai que bon, moi, j'ai un rapport professionnel, hein, donc si je me trompe. Je le vis pas très bien, quand même. C'est quand même un échec quelque part. Mais on est dans le spectacle vivant, et donc si on se trompe, on se trompe et on continue. Après, le but c'est de pas, enfin, on doit pas se tromper. Donc ça veut dire que avant une lecture à voix haute, il faut bien se préparer, il faut se concentrer, il faut se préparer même corporellement, faire quelques exercices de mise en voix, d'articulation. Il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer. Voilà.
Je voudrais qu'on revienne peut-être, pour conclure, à une réflexion plus littéraire. Il y a une expérience qui m'avait interrogé il y a une quinzaine d'années, c'est la lecture de Paradis par Philippe Solers. Solers a lu ce texte, qui est un texte dont je vous rappelle qu'il n'a absolument aucune ponctuation, pendant toute une nuit dans une chapelle à Venise. C'est un texte extrêmement difficile à lire. Je pense que il y a des enregistrements sur YouTube de cette expérience, en tout cas au moins partielle. C'est quelque chose qui relève réellement de la performance. Est-ce qu'il vous paraît qu'il y a des textes, il vous semble qu'il y a des textes qui sont plus ou moins lisibles, et est-ce qu'il y a des textes illisibles? Je vous dis ça parce que on mène à Athènes ce que nos amis grecs appellent des marathons de lecture, c'est-à-dire que un jour dit, dans le courant du mois de mars, dans toute la Grèce, il y a des gens, des étudiants, des professeurs, mais le grand public également, qui lit des textes choisis. Et j'ai participé l'année dernière à ces marathons de lecture. On m'a demandé de lire un texte de Valère Novarina.
Oui.
Qui était un texte de 5 ou 6 pages, sans aucune ponctuation, oui. Et que j'ai trouvé d'une extraordinaire difficulté.
Oui. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça?
Alors, Valère Novarina, j'ai fait un stage avec lui.
Oui.
Et donc, c'était un stage qui n'était pas un stage de pratique, hein, c'était lui qui parlait pendant 2 jours. Sans ponctuation. Donc lui, effectivement, il a été joué au théâtre par de très grands acteurs. Moi, j'ai vu des spectacles d'après ses textes, ou même des spectacles qu'il avait mis en scène. C'était vraiment extraordinaire. Mais
c'est une grande difficulté.
Mais bon, bien sûr.
J'ai vu la retransmission d'un spectacle donné à Avignon l'année dernière.
Ouais.
Je veux dire, la prestation de l'acteur est un tour de force.
Ouais. Hein. Mais d'ailleurs, il a des acteurs fidèles, c'est-à-dire des acteurs qui connaissent bien ses écrits, qui connaissent bien son univers, et eux, ils portent véritablement les mots de Valère Novarina. Et je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Absolument, hein, absolument.
Vous êtes confronté, vous êtes confronté à ces textes, par exemple?
Non.
Non.
Non. Mais non.
Par quoi? Par crainte?
Non, mais parce que j'aime bien voir ces spectacles, mais quand même, ça n'est pas tellement mon univers poétique personnel. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que je vois, mais par exemple en tant qu'interprète, c'est quand même un univers qui est un peu loin de moi. Ouais, c'est un peu paradoxal peut-être ce que je dis là, mais moi si je n'irais pas naturellement vers cet auteur pour.
Ah ben d'accord. Moi je croyais qu'on pouvait vous passer commande de n'importe quoi.
Non, au fond. non. Mais il faut quand même que
ça n'est pas le cas.
Non, il y a quand même des textes qui résonnent ou qui ne résonnent pas chez un individu. Voilà. Après on peut faire des efforts. Mais quand même, moi, je ne peux pas tout lire.
Oh, mais ça me fait plaisir, d'une certaine manière, de mettre l'acteur en défaut, en quelque sorte, parce que j'avais l'impression que, voilà,
on n'est pas des machines.
Voilà, que vous saviez tout faire et que vous veniez à bout de n'importe quel texte et que voilà.
Ben, je sais pas. Non, parce qu'après, il y a quand même l'intérêt personnel qu'on peut, parce qu'on parle de poésie quand même. Mmh. Hein, donc la poésie, je le dis souvent, c'est très personnel, c'est très sensible. Et donc. Après, on peut lire pratiquement n'importe quel texte, mais après, on le dira peut-être moins bien si on n'est pas en adéquation avec les mots.
Bon, d'accord. Vous avez le sentiment d'avoir fait passer tout ça, hein, pas dans l'esprit que vous avez fait prévaloir dans les stages là que vous avez conduits. Je veux dire, les gens ont ressenti ça.
Ben, j'espère. En tout cas, c'est vraiment le but. Hein. Et puis souvent, j'ai quand même proposé des textes et des poèmes que j'appréciais, moi tout particulièrement. C'était pas des textes qui m'étaient étrangers, c'est des textes qui m'accompagnent souvent depuis longtemps, ou des poètes de cheveux. On a parlé de Sandrard, mais bon, moi j'ai des Snos.
C'est bien que vous parliez de la littérature comme d'une forme d'accompagnement.
Ah ouais,
oui, c'est ça.
Ça nous aide à vivre.
Voilà, il y a des textes qui nous accompagnent,
qui nous aident à vivre, et notamment dans les moments un peu douloureux ou dans les moments...
Oui, quelquefois les gens n'ont pas perçu, enfin, je veux dire, ne se sont pas rendus compte de ça ou n'ont pas intellectualisé en quelque sorte ce sentiment. C'est que la littérature n'était pas quelque chose qui nous était extérieur, mais qui nous parlait, qui nous parlait de l'autre et nous parlant de l'autre, qui nous parlait de nous-mêmes.
Qui sont vraiment intérieurs.
Voilà.
Et ça fait du bien de
lire. Ça permet de gagner en confiance aussi.
Exactement. Ouais, voilà. Et ça nous amène du beau. C'est-à-dire que le poète amène du beau, et quelquefois notre vie n'est pas forcément belle, et le poète peut traduire ce qu'on vit intérieurement avec des mots qui sont des mots magnifiques. Et effectivement, je voudrais juste évoquer mon expérience en milieu pénitentiaire. J'ai travaillé avec des détenus, donc ça veut dire des gens qui ont une vie rude, terrible souvent. La poésie est très présente en prison, c'est-à-dire souvent les gens quand ils écrivent sous forme poétique, ce qu'ils n'ont jamais fait à l'extérieur souvent. Ils découvrent la poésie en prison. Et mes ateliers de lecture à voix haute fonctionnent bien avec des détenus, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, parce que ça fait catharsis et ça tire vers le haut, vers le beau, pardon, et ça valorise la personne. La personne se sent valorisée. Et j'ai travaillé vraiment sur des textes difficiles, quelquefois Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, les grands auteurs. Et là, les gens apprécient tout particulièrement. Ils se sentent valorisés de pouvoir dire les mots de ces auteurs qui, souvent, quelquefois, ils ne les connaissent pas, ou ils les connaissent vraiment de loin, ou c'est un mauvais souvenir à l'école. Voilà, et tout d'un coup, il s'en empare. Et ça, c'est, alors là, ça, c'est magnifique.
Bon, merci d'évoquer cette, vos interventions en milieu pénitentiaire. Bon, beaucoup d'acteurs hein, se prêtent à ce... à ces actions qui sont favorisées par le ministère de la Justice
ouais. hein, voilà, et de la culture.
Et de la culture, ouais. bon, c'est extrêmement important. Bon, si vous voulez, voilà, restons-en là. Restons, si vous voulez, sur cette tonalité poétique. J'ai bien aimé ce mot d'accompagnement que vous avez utilisé.
Ouais.
Au fond,
ouais.
Voilà, les prisonniers dans un milieu très dur sont aussi accompagnés par la parole politique.
Exactement.
Voilà, et qui leur permet peut-être ouais. d'échapper à la réalité de leur quotidien. Voilà, accompagnement et les enseignants auxquels vous vous adressez, auxquels on s'adresse ce soir, au fond, accompagnent les enfants aussi.
Ah oui, après, ouais,
voilà,
bien sûr.
Ouais. Ils accompagnent les enfants et la littérature doit les accompagner l'un et l'autre. Mmh. Voilà, c'est une réalité qui doit leur être consubstantielle, et c'est avec ça qu'on a confiance. Mmh. Et c'est avec la confiance qu'on s'assure une forme de réussite. Mmh.
Et puis, la poésie aussi, elle est vraiment liée à l'adolescence, je pense. Je pense que si on découvre la poésie à l'adolescence, c'est bien. Enfin, moi, pour moi, je l'ai vraiment découverte très concrètement à l'adolescence. Et les chocs de l'adolescence, les chocs émotionnels de l'adolescence, après... ont des répercussions sur toute notre vie. Donc, si la poésie, elle peut s'emparer d'un adolescent ou d'une adolescente, ça va le nourrir ou la nourrir pour le reste de sa vie. C'est-à-dire que la poésie va l'accompagner après le long de sa vie. Et c'est bien.
Merci, Eric Sénat.
Je vous en prie.
C'était 31 jours en poésie. L'Institut français de Grèce vous a présenté Dans les secrets de la lecture à voix haute avec Eric Sénat et Philippe Mogenthal. Musique du générique, Sophia Alexandrou. Nous vous retrouverons demain sur les ondes d'Athéna Vox, la radio de l'Institut français de Grèce, pour une nouvelle émission de 31 jours en poésie.